Certains, effectivement, ont leur compte administratif, mais à mon avis, ils n'ont pas encore leur compte de gestion.
Il y a énormément de retard depuis le changement de pointage. Absolument. Au niveau des trésoreries. Voilà, ouais, on a eu l'explication.
Sur le CCH, vous ne pouvez pas dire qu'il y avait une erreur. Je veux dire, il y a, on avait été, effectivement, on mettait à chaque fois dans le budget prévisionnel un peu de marge pour s'il y a un imprévu à Bussy. On a l'impression, sur beaucoup de postes, que vous êtes à l'os.
Pas sur le CCAS.
Non.
De 200 000 euros de marge, c'est énorme sur un budget de 400 000. C'est 50 000. Si, si, c'est 200 000. J'ai dit moins, un peu moins de 200 000 euros. C'est 170 000 exactement.
Et on l'a, cette réserve-là.
Mais les c'est pas forcément le CCAS qui prend en charge.
Moi, il y a quand même quelque chose que je comprends pas, c'est que vous mettez quand même que ces diminutions de la subvention à la Caisse des écoles et au CCAS, ah, vous le mettez, vous l'écrivez.
Par rapport au BP, de BP par BP, c'est ça, c'est en préambule
dans le robe.
Donc, sur la base des informations que j'ai, il y a une baisse. On est d'accord. Voilà.
De BP à BP.
Bah oui, mais c'est la seule chose que j'ai.
Mais c'est propre d'un robe.
Non, mais vous le savez, il faut quand même revenir aux fondamentaux. Je dirais, en dehors du compte administratif qui est la photographie des dépenses, on est sur des budgets prévisionnels en préparation. Budget prévisionnel. Donc les ajustements effectivement se feront. La véritable photographie, c'est celle du consommé. Donc quand on aura le consommé effectivement du CCAS de manière définitive, on aura effectivement ces éléments de comparaison et vous verrez qu'il n'y a pas de baisse. Il n'y a pas de baisse. Absolument. Absolument. Donc, être à l'os, Madame Brunel, effectivement, sur un certain nombre de dépenses, je pense que les Luxembourgeois nous sont redevables de cela. Parce qu'effectivement, quand on a évacué le gras, quand on a touché au muscle, effectivement, et qu'on arrive à l'os,
je voudrais répondre sur les subventions aux associations et donner aussi mon point de vue, parce que je suis d'accord qu'on est vraiment à l'os. Vous parlez de strates de villes comparables. Très franchement, quand j'ai vu la somme de 150 000 euros, pour une ville qui a 40 millions de budget de fonctionnement, enfin de charges de fonctionnement, c'est ridicule. 150 000 pour toutes les associations de Bussy, sportives, culturelles, linguistiques, etc.
Mais il faut regarder.
Laissez-moi terminer, merci Amandine. En fait, la plupart des villes de cette strate, elles ont des budgets de 400 à 500 000. Vous comparez la police, par exemple, municipale de Bussy, qui est très bien dimensionnée, elle est dimensionnée comme la ville de Meaux. Donc je ne vois pas pourquoi tout d'un coup les associations de Bussy seraient privées d'autant d'aides, alors que ailleurs, elles en ont à l'ANI, par exemple, et qui n'a pas des taux d'imposition, ils ont augmenté délirant comme les nôtres en foncier, ils ont 450 000 euros de subventions aux associations. Nous, on est tombé à 150 000. J'ai géré un peu la culture, j'ai regardé aussi le sport et tout ça, enfin de loin, et j'allais même dire à Madame Brunel, déjà à l'époque, que 200 000 pour moi, c'était vraiment, vraiment à l'os, et on est tombé en dessous de l'os. Comme vous êtes en préparation de budget pour... Pour ces gens-là qui font un gros travail, moi je trouve que vous pourriez revoir ce taux.
Voilà. Je pense que c'est pas un problème de taux, Martine, parce qu'effectivement.
Le montant, l'enveloppe est très faible.
On ne fait que répondre à la demande des associations.
Bah écoutez, si vous faites passer le message que vous êtes un peu plus ouvert, il y aura des demandes. Et je pense que franchement, avec 150 000 euros, elles ne peuvent pas faire grand-chose dans une ville de cette taille. Et franchement, vous avez plein d'exemples autour de vous. C'est public, vous pouvez regarder les subventions aux associations ailleurs. Je ne suis pas pour la dépense.
Mais je sais bien. Et en dehors des subventions, je vous rappelle effectivement que les subventions indirectes de mise à disposition de salles communales, etc., ne sont jamais facturées.
Mais c'est pareil ailleurs. À l'ANI, ils ont des salles partout.
C'est pas tous les clubs. L'ANI et Bussy, on ne peut pas le comparer effectivement là-dessus. Donc clairement, les réponses que nous faisons aux associations sont celles des dossiers. Et quand on voit effectivement certaines associations, en fonction du nombre de Luxembourgeois qui y sont, en fonction, je dirais, des taux d'épargne qu'ils ont. Parce qu'on a aussi des associations
et qui ont beaucoup d'argent sur des livrets.
Donc forcément, effectivement, je dirais...
Vous avez certainement raison. Absolument. Mais globalement, l'enveloppe est très faible et ça pose question pour une ville de cette taille, aussi jeune, avec autant d'associations. Je suis très étonnée.
On comparera aussi, comme on l'a dit, au réalisé 2017, où on verra que l'enveloppe qu'on avait n'a pas été... n'a pas été totalement dépensé. On va pas aller au max de l'enveloppe pour dépenser toute l'enveloppe.
À un moment donné, je pense que c'est un esprit et un message qu'on fait passer aux associations de Bussy et aux...
Oui, mais il y a aussi des dossiers avec des critères et ça peut... Et
bien entendu qu'il en faut toujours.
Ça peut pas être,
mais bien entendu qu'il faut des critères. Je ne pense pas que dans les villes, les grosses villes comme Chelles ou comme Meaux, ils fassent n'importe quoi pour donner leur subvention et ils donnent quand même beaucoup plus d'argent. Et je vous dis, je ne suis pas pour la dépense, je suis pour la gestion. Non, mais là, j'ai été très étonnée de ce montant et je trouve que 150, alors là, on est vraiment tombé comme dans une ville de 10 000 habitants de Seine-et-Marne.
Non, voilà. On est bien par rapport aux demandes.
Non.
Si.
Non. Et la taxe foncière à ce taux-là encore, je ne sais pas ce que vous avez fait de la trésorerie, est-ce que c'est celle-là qui sert à investir? Parce que 26 millions de trésorerie et on n'a pas de baisse des taxes foncières, on reste toujours à 57,8%, les champions de France. C'est très injuste pour les Luxembourgiens maintenant qui vont être les seuls à payer la taxe. C'est très injuste. À Volo, j'ai pas dit ça. À Volo. C'est pas à vous que je parle, monsieur Nouvero, c'est à monsieur Dubosc et monsieur Boutillier, mais je parle pas de mettre ça à Volo. Hein.
Non, mais.
Vous ne pouvez pas effacer comme ça 16 ans de gestion qui nous ont précédé avant 2014, qui ont été dérives à la limite du sectaire. Okay. Quand on fait du clientélisme, comme on faisait avant au niveau des associations, vous pouvez dire maintenant que l'ensemble des critères sont absolument respectés quant au choix des subventions des associations. On fait le distinguo entre les gens qui sont de l'extérieur de Bussy et ceux qui sont de Bussy, et on a pas la vocation à répondre systématiquement à toutes les associations qui font des demandes.
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que l'enveloppe était très faible par rapport à la taille, à la strate de la population. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit.
Franco.
C'est un autre sujet.
Stop. C'est bon, on a compris. Là-dessus, effectivement, on vous a apporté des réponses sur la justification de l'enveloppe. Point la ligne. Madame Travers, pour terminer.
Oui, non, bah, c'est pas pour terminer, j'ai encore quelques questions, excusez-moi. Dans les charges de personnel, vous avez exprimé une volonté assez clairement affichée de développer une politique RH volontariste. Sachant que nous subissons, comme toutes les communes, les réformes imposées par l'État, vous les avez déclinées les unes après les autres. Néanmoins, nous pensons qu'il faut quand même s'interroger sur l'avenir, à l'avenir sur la progression des charges de personnel, parce qu'elles ont quand même progressé. Donc, quand on regarde en réel, j'ai fait le calcul, alors vous me direz si je me trompe, hein, mais je vais calculer puisque hein, plus 3,8% en projection du BP 2018 par rapport au réalisé 2017, qui lui-même était de plus 3,4% par rapport au réalisé 2016. Donc, pour notre groupe, nous sommes vraiment favorables au fait qu'on continue à mutualiser avec la communauté d'Aglo et que ce soit un moyen aussi de freiner aussi la progression des dépenses de personnel. Ça, c'est important.
Alors, concernant les frais de personnel, comme j'ai expliqué, hein, les augmentations qu'il y a pu y avoir sont principalement expliquées par les hausses des taxes, etc. Je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, sur le fait de mutualiser, on est toujours dans cet objectif-là. Ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que même si nous mutualisions, d'abord, un, nous n'avons plus la maîtrise du personnel ni du service que nous allons mutualiser, puisque c'est la CAMG qui aurait cette maîtrise. Mais c'est toujours compensé à l'euro près. C'est-à-dire que la charge que nous allons... Enfin, le service que l'on va transférer, nous allons y transférer également la charge. Donc, dans l'attribution de compensation, nous allons la payer. Ils vont nous la déduire purement et simplement. Ils vont appliquer les mêmes règles, augmentation du GVT, etc., etc. La mutualisation est bonne, je dirais, quand il y a un regroupement de services avec des départs associés à la retraite, etc. Où là, en fait, on va réduire la masse salariale pour avoir un service identique et commun. Aujourd'hui, si on fait une mutualisation, si on prend, je vous donne un exemple, hein, 10 personnes de Bussy, 10 personnes de Lagny, 5 personnes pour faire un service de 25, la mutualisation, elle existe, mais les coûts sont exactement les mêmes et sont reportés à chaque ville à l'euro près. Donc la mutualisation aussi a ses limites. Après, ce qu'il est vrai, c'est que potentiellement, comme certains l'ont fait, ils peuvent transférer un bâtiment en même temps, comme ça ils n'ont plus le fonctionnement avec, et ainsi de suite. Là, c'est beaucoup plus intéressant, mais ce n'est pas notre cas.
Oui. Après, on est dans une commune où il y a quand même un certain nombre de cas où des délégations privées, hein, quand même, on n'est pas sur un nombre de un personnel très important d'avoir d'autres villes de même taille en Seine-Marne. Donc c'est pour ça qu'on vous alerte quand même sur le fait qu'effectivement, dans ces conditions, enfin, on est sensible au fait qu'il n'y ait pas à la hausse de frais de personnel.
Voilà. Ce qu'on surveille comme le lait sur le feu.
Absolument. Très bien.
Et j'ai d'autres questions.
Très bien. Pas d'autres questions ?
Si, j'en ai encore. Si. Alors d'un trait, je continue, j'enchaîne. Sur les produits des services, nous considérons que c'est une bonne idée de remettre à plat les tarifs, la politique tarifaire. Par contre, une condition selon nous, c'est que cette nouvelle grille soit basée sur un taux d'effort permettant de contribuer selon ses revenus. Là, c'est un point. Dans les dotations, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Bon, les dotations, elles baissent dramatiquement, vous l'avez signalé, ok. Il fut un temps, monsieur le maire, où vous étiez dans l'opposition et vous déclariez que l'État et Parmain nous devaient beaucoup d'argent. Ils sont importants. Et là, ça fait partie des leviers sur lesquels on peut agir. Donc je voulais savoir pourquoi vous ne l'abordez pas. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, quand je dis qu'il y a une limite à ce qui se fait aujourd'hui, à ce que vous faites aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps un temps où vous-même, vous le disiez. Donc,
absolument. Alors, une des réponses que je peux apporter, effectivement, c'est le pourcentage de financement que nous avons sur les groupes scolaires, qui sont quand même sur des masses extrêmement importantes. Et le deuxième point, avec l'ensemble du conseil d'administration, puisque effectivement, je préside le conseil d'administration des Pamarles, nous avons demandé au futur directeur général, qui devrait arriver le 6 avril, les bilans de ZAC, c'est-à-dire quelle est la richesse produite par les investissements des ventes de foncier sur la totalité des ZAC. Et nous avons, de Noisy-le-Grand jusqu'à Disney, peu de réponses aujourd'hui sur les bilans de ZAC. Donc c'est un des points effectivement que nous sommes en train de voir avec Epamarle. Et pour dire qu'il y reste effectivement de l'argent sur nos ZAC, le pourcentage de prise en charge de financement des équipements publics augmente. Donc cet argent-là, qui est investi sur le territoire, reviendra sur le territoire. Et on s'est battu dans le cadre de l'extension du périmètre des Pamarnes vers le Val-de-Marne pour que l'argent des ZAC, et notamment de Bussy, puisque c'est 50% du chiffre d'affaires, n'aille pas financer les premières opérations du Val-de-Marne, ce que nous avons obtenu. Donc c'est le Val-de-Marne, par ses propres constructions, qui financera, je dirais, les premières opérations immobilières. Donc aujourd'hui, c'est ça. Un, des pourcentages de financement supplémentaires. Deux, les bilans de ZAC qui vont nous arriver, puisque Epamarne, aujourd'hui, se met à la comptabilité analytique. Donc nous saurons à l'euro près ce qui a été produit comme richesse sur les ZAC. Et ces richesses-là, on les estime aujourd'hui à Bussy-Saint-Georges à 70 millions. Donc ça, je reste exactement sur la même prérogative. La preuve, je vous dis, quand on passe de 40% à 80% de subvention, ça veut bien dire que la richesse, effectivement, produite, elle est là et elle restera sur le territoire.
Et investi
sur nos équipements.
Vous évoquiez l'échangeur, le deuxième échangeur. Il n'est pas dans le PPI ?
Non, l'échangeur est dans le PPI parce qu'il est prélevé en fait.
Je dirais la technique de financement, c'est Epamarne qui, sur ses fonds propres, va avancer les 12 millions. Et les 12 millions ensuite sont déduites des participations des ZAC. Donc il y a plusieurs ZAC de Bussy, plus de Montévrin, de Ferrières, etc. Donc voilà, grosso modo, c'est 70-12. Donc ça veut dire qu'effectivement, nous n'avons pas à le dépenser en direct, c'est prélevé sur les participations de ZAC, donc ça veut dire c'est prélevé sur la richesse produite. Et qu'on aura forcément moins. Et donc, ça c'est exactement cela. Donc la réflexion que nous avons aujourd'hui avec le conseil d'administration des Pamarnes au moment du vote sera de dire, ben, puisque la collectivité va dépenser 12 millions entre guillemets avancés par Epamarnes, eh bien nous allons demander à l'État de compenser par d'autres investissements sur le territoire de Marne-la-Vallée et notamment à Bussy-Saint-Georges à hauteur de ces investissements. Donc ça sera des richesses qui reviendront sur le territoire. Donc le préfet de région est à l'écoute des propositions que nous allons faire de réinvestissement sur le territoire.
Et quand vous abordez la question
du
financement par Epamarnes des groupes scolaires, le 12e, lui, il est financé intégralement par nous ?
Non, il y aura toujours effectivement des participations. Alors, les 11, 12, 13 ne seront pas arrivés à peu près dans la même époque.
Ouais.
On en a deux qui vont se suivre sur le Sycomore et le troisième qui n'était pas prévu sur le centre-ville. C'est celui-là aujourd'hui, sur la négociation que l'on a, qui devrait être financé à hauteur de 80%. Celui-là, nous sommes encore en discussion avec vous.
Si vous n'êtes pas prévu. D'où la réponse à Mme Brunel sur pourquoi la subvention ne représente pas 80%, parce que j'ai bien dit que la subvention était basée sur les 13, ainsi que sur le GL12, c'est encore en négociation.
D'accord. J'ai une question sur les groupes scolaires. Est-ce qu'on aura aussi des groupes scolaires à 800 000 euros la classe, ou est-ce que ça va un peu baisser?
Ah ben, ça rejoint ma question, parce que le 10e groupe scolaire est à 16,8 millions, alors que les autres sont à 8 millions. Qu'est-ce qui fait ce bel écart?
Vous avez entendu, vous avez toutes parlé en même temps.
Les groupes scolaires qui vont arriver ne sont plus des groupes scolaires de 16 classes, mais de 20 classes. Et aujourd'hui, EPAMARNE est capable de produire, comme quoi, effectivement, quand on discute avec eux, eh bien, effectivement, ça marche. On ne sera plus à des classes à 1 million d'euros ou à 800 000 euros. On reviendra, effectivement, sur le normal, à des classes entre 500 et 500 000 euros.
En HQE et tout, enfin...
Et on sera toujours sur des normes HQE, puisque les deux premiers sont dans l'éco-quartier. Donc, effectivement, et les normes de bâtiment sont draconiennes, effectivement, la matière.
Question subsidiaire sur la construction. Pourquoi elles sont draconiennes pour les écoles primaires et pas sur les collèges?
Mais ça, c'était avant. Maintenant, c'est draconien, y compris sur les collèges. Mais il y a 8 ans, c'était pas le cas. OK. Madame Travers.
J'avais encore des questions, excusez-moi. Je continue. La fiscalité. Alors, vous avez abordé une baisse des taux communaux, la pression fiscale reste insupportable pour bien des chirurgiens par ailleurs, quand même si la taxe d'habitation va baisser pour certains, pas pour tous. On peut parler de baisse symbolique depuis 2014, mais nous reconnaissons que l'effort doit être fait, et que, voilà, nous avons voté d'ailleurs, nous, ces baisses.
On a voté.
Néanmoins, ça nous a quand même privé de 2,2 millions de produits fiscaux, qui s'ajoutent à 4 millions de dotations perdues, ce qui fait un monde à gagner de 6 millions. Ce qui est quand même pas rien, puisqu'on a... Voilà. Donc...
Nous avons ajusté les dépenses.
Oui, et c'est là où disons, attention, parce que ce qu'on perçoit, c'est qu'on est en train... C'est que les services... vous arriviez à une limite où ce soit les services qui soient atteints, attaqués...
Et, on est d'accord, mais ce qu'il faut bien penser, c'est que... Et 2 millions, 6 millions sur une certaine période, c'est quand même du pouvoir d'achat pour les puissants georgiens. C'est ça le pouvoir, hein. On l'a tous vu. Ça a baissé, on l'a tous vu. Et à cet argent-là,
on est
directement dans la poche du contribuable, on a notre.
Ah ouais, ouais. On est loin du symbole, et c'est une des raisons, effectivement, des engagements électoraux. Donc, la baisse des dotations, nous ne l'avons pas, mais c'est peut l'anticiper. La baisse de la fiscalité, effectivement, c'est un choix politique. C'est un choix politique, effectivement, qui est compensé par des dépenses. Monsieur Sibel.
Oui, bien sûr. Mais là est toute la limite de votre politique, puisque vous ne pouvez plus baisser les impôts.
Vous l'écrivez oui, d'ailleurs.
Voilà. Donc, ben oui, mais ce n'était pas votre choix initial et qui donne raison à ce que nous avons dit au moment de l'élection et au moment de l'installation du Conseil, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les moyens de ce qui n'est pas d'ailleurs une stratégie de désendettement, une stratégie financière qui nous permettait de voir une sortie de difficultés. Aujourd'hui, les difficultés arrivent. Le président de la République actuelle avait mis carte sur table la question de la suppression de la taxe d'habitation pendant la campagne présidentielle, on le sait au moins depuis février 2017.
Mais pas la rétribution collective. Il avait dit je supprime la taxe.
Vous pouvez augmenter autant que vous voulez les impôts pour essayer de faire voir une astuce, mais vous pensez que l'État est plus intelligent que tout le monde, ils feront à partir des bases pour la compensation pour 2017. Donc si vous augmentez aujourd'hui, bah, ce sera une augmentation, mais vous n'aurez pas de compensation par rapport à l'astuce. Et toutes les communes de France et les collectivités doivent y penser, et l'État en premier, ils sont plus forts que nous. Et à la tête d'ailleurs, c'est un inspecteur des finances qui connaît un peu les chiffres, et je peux vous le dire parce que je le connais, y compris personnellement. Donc ils savent le faire. Ce que nous vous disons, pour être très simple, c'est que tout le débat que nous avons ce soir est très intéressant, mais il démontre une chose, c'est que vous n'avez pas effectivement, hélas, les moyens de votre politique. La baisse des impôts, elle s'arrête à partir de cette année. Donc, du prochain budget. Premier point. On comprend les difficultés. Au moins, avez-vous l'honnêteté de le dire et de ne pas le masquer auprès des citoyens. C'est déjà ça pour un débat démocratique. Mais ça donne raison à ce que nous disions. Parce que la vraie bagarre qui doit être menée, elle est vis-à-vis de l'État auprès duquel vous ne menez pas cette bagarre. C'est-à-dire de demandes de renégociation d'un certain nombre de dettes
que nous avons.
Que nous avons.
Au-delà des.
Et c'est ce que disait tout à l'heure Claire Travers, que je reprends pour notre compte ensemble, parce que je ne veux pas alourdir les débats et tout aura été dit pour nous à partir de maintenant, c'est que désormais, la ville de Bussy, hélas, n'est plus maître de son destin et d'abord de son destin financier. Nous continuons de penser que la seule façon de sortir de la crise qui va venir tôt ou tard, parce qu'elle se paiera d'une manière ou d'une autre par la population, soit en baisse de service, soit en baisse de qualité de service, soit en augmentation d'impôts, soit d'une mise plus ou moins sous tutelle réelle ou pas de l'État, c'est précisément une renégociation ferme avec l'État au regard de la situation tout à fait exceptionnelle qui est celle de la ville de Bussy-Saint-Georges. Donc, encore une fois, la stratégie n'en est pas une, c'est une gestion plutôt au jour le jour. Elle est sans doute précautionneuse pour les deniers publics, mais nous ne voyons pas l'évolution pour la ville en termes d'activité, de développement, à part l'augmentation des logements, dont nous savions qu'elle était inexorable. Ce ne sera pas 550, mais ce sera quand même 450 par an. Et comment la ville, à un moment donné, elle va vivre à partir du moment où elle n'aura plus des moyens d'investissement suffisants et que l'État n'est plus tout à fait à nos côtés, surtout si on n'est pas ferme vis-à-vis de lui, compte tenu des efforts que vous avez bien rappelés, extrêmement importants de la ville de Bussy, qui a grandi de manière exceptionnelle et de grâce. Tout le monde est conscient des turpitudes du passé. Elle ne peut pas être systématiquement une raison pour cacher, masquer l'absence de stratégie financière plus ferme, plus forte. Et encore une fois, monsieur le maire, nous sommes prêts, comme opposition, à travailler main dans la main sur cette question de désendettement. Nous avions des propositions que nous avons faites. Elles me paraissent fortes. Et aujourd'hui, la ville de Bussy n'est plus défendue comme elle devrait être au plan vis-à-vis de l'État. Il n'y a pas de voix forte pour la porter. Et je regrette que ce que j'avais défendu en mon temps sur l'échangeur soit totalement aujourd'hui abandonné. Donc nous continuons de dire que nous allons subir et encore subir et encore subir les desiderata de l'État, d'une part, et nous ne voyons pas davantage ce pouvoir-là qui gouverne aujourd'hui la France être davantage bienveillant à l'égard des collectivités. Je pense que, je ne dis pas du désengagement, mais je pense qu'il y a une nouvelle forme de rapport avec les collectivités où l'État central ne va pas beaucoup donner aux collectivités dans les prochaines années. Vous avez rappelé les 10 ou 13 milliards ou 11 milliards supplémentaires, d'efforts supplémentaires qui vont être demandés. Donc encore une fois, je pense que cela mérite quand même un changement de stratégie parce qu'il en va de l'intérêt général à Bussy et nous ne sommes pas fermés à y contribuer.
Alors les Bussy-Saint-Georges ont tranché sur la stratégie, fort heureusement, mais notre stratégie, effectivement, je l'ai développée tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Quant à la négociation ou aux discussions avec l'État, jamais nous n'avons autant discuté avec l'État qu'aujourd'hui. Jamais nous n'avons eu autant de résultats avec l'État qu'aujourd'hui. Après, la dette. La dette, on en a déjà discuté, ça fait déjà 4 ans qu'on travaille dessus. On est arrivé aussi, là, je dirais, au bout de ce qui était négociable. Et notre dette a réaugmenté du fait de la, je dirais, de l'arrivée du PPP. Et là, je suis désolé de le redire, c'est quand même pas nous qui avons décidé effectivement de faire un gymnase à 25 millions d'euros à l'époque. Et le montant de la dette de ce PPP, nous l'avons pris en pleine face budgétaire et nous le gérons clairement aujourd'hui. Donc notre stratégie, elle est bonne. Notre stratégie, elle est claire. Les risques, on les sous-estime pas, on les a très largement anticipés. Et quant à la fiscalité, effectivement, comme je vous le disais aujourd'hui, nous sommes venus sur une époque réaliste. Et donc, pour éviter effectivement les risques d'insincérité, nous maintenons aujourd'hui la fin de l'hémorragie des recettes budgétaires avec le plancher que nous avons atteint en matière de fiscalité. Donc, vous n'êtes pas d'accord, ce qui est légitime, effectivement.
Mais ça donne raison à ce moment-là. Vous n'avez pas les moyens de baisser les impôts pendant
Bien sûr que non. Mais personne n'est. Mais je pense qu'à Bussy-Saint-Georges, les contribuables savent très bien qu'on ne va pas atteindre 10% de fiscalité. Donc c'est clair qu'effectivement, aujourd'hui, ce que nous avions dit, nous l'avons fait.
Oui.
Et bah, nous avons ans, baissé.
Non.
2014, 2015, 2016, 2017.
On s'est engagé sur un taux de baisse.
Exactement.
Qu'on a fait.
30% de baisse.
Monsieur Sipel, je ne vais pas revenir sur la campagne de 2015.
c'est pas la campagne.
Non, non, mais je vais vous rappeler simplement un tract que j'ai reçu de votre liste, où à un moment je me suis dit, on est à la course à l'échalote. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, vous annonciez, ben moi je baisse de 30% les impôts.
Mais j'ai une autre stratégie que la vôtre.
Mais votre stratégie...
Moi je serais allé chercher l'État.
Oui, mais aujourd'hui l'État, c'est plus le même.
On n'a pas fait que ça.
Enfin, c'est plus le même.
Pardon, Pierre Lafaille, c'est pas un zozo, il s'est compté.
Sauf que...
Vous avez une stratégie très ferme.
Sauf que nous, notre stratégie, voilà, elle est un petit peu plus douce en termes fiscaux. Par contre, on travaille énormément sur les dépenses.
Ah ben oui, mais c'est
et vrai, nous travaillons mais énormément
c'est
au détriment
des habitants et des services.
Bien sûr que non. Bien sûr que non.
Quand vous voyez des contrats, etc., c'est pas sur les services à la population. Hein.
Ça suffira pas.
Mais de toute manière, on sera pas d'accord, je dirais, là-dessus. Donc je pense qu'effectivement, on va pas se faire convaincre, je dirais, là-dessus. Non, nous répétons effectivement, je dirais, les trois grands qualificatifs de ce budget 2018, maîtrisé dans les dépenses, réaliste et ambitieux, puisqu'effectivement nous avons quand même un plan d'investissement extrêmement important financé sur nos fonds propres. Et le désendettement de la ville aujourd'hui est acté.
Alors, une question que j'ai pas de... une réponse que j'ai pas donnée à Mme Travers concernant l'épargne nette. Vous parliez de chute libre de l'épargne nette. Alors, il faut relativiser quand même cette chute libre d'épargne nette. Pourquoi ? L'année dernière, sur 2017, nous avons dû intégrer la TVA dans le fonctionnement de cette épargne. Donc, la TVA du PPP, du loyer PPP. Donc, le PPP, Laura Flessel, nous payons un loyer. Et cette TVA, nous payons un loyer TTC, une TVA que nous ne récupérons pas. De ce fait, notre épargne nette chute par rapport à 2016, parce que nous avons l'incidence de cette TVA qui rentre en plein dedans.
Oui,
voilà, tout simplement.
Okay. Très bien.
Merci pour les explications.
Très bien, mes chers collègues.
Est...
Oui, mais on n'est jamais à taux constant de toute manière à Bussy. On n'a jamais d'année de référence. Donc 2017 et 2018 ne seront pas une année de référence non plus. Très bien, mes chers collègues, nous allons passer au vote pour... pour prendre acte de la présentation...
Le vote, c'est ça.
Donc, la présentation du rapport d'orientation budgétaire 2018 et le débat, et notamment les engagements pluriannuels. Qui est contre ? Abstention ? Très bien. Validé.